something is happening in our world. The masses of people are rising up, whether they are in Johannesburg, South Africa, Nairobi, Kenya, Accra, Ghana, New York City, Atlanta, Georgia, Jackson, Mississippi, or Memphis, Tennessee. The cry is always the same. We want to be free.
Martin Luther King, Le silence s'est enfin déchiré. Feuilleton en 5 épisodes de Sophie Lemp. Une réalisation de Michel Sidorov. Deuxième épisode.
Il me pose des questions. Me touche. Caresse mon visage. Je reste là, sans pouvoir bouger ni répondre. Je n'ai même pas la force d'ouvrir les yeux. Je ne suis pas mort pourtant. Je respire encore. Lentement, je parviens à faire entrer un filet d'air dans mes poumons. Est-ce que Coretta est au courant? Est-ce qu'ils lui ont téléphoné? Elle va se faire un sang d'encre. Tu dois être bien seul pour avoir agi ainsi. Si tu avais été aimé d'une femme comme je le suis de Coretta, je suis certain que tu n'aurais pas tiré. Au dernier moment, tu aurais pensé à elle et tu aurais renoncé.
Le 4 avril 1968, Martin Luther King est à Memphis pour soutenir le mouvement des éboueurs noirs de la ville. Vers 18 heures, il sort un instant sur le balcon de la chambre qu'il occupe au Lorraine Motel. Un coup de feu retentit. Il s'écroule. Il meurt une heure plus tard à l'hôpital Saint-Joseph. Il a 39 ans.
Je savais que l'on pouvait porter atteinte à ma vie à tout moment. J'en ai pris conscience pour la première fois au moment du boycott de Montgomery. L'un de mes plus beaux combats.
I thought about all the nights my grandfather had to keep a gun by his side to protect his family from the Ku Klux Klan. And all the times I had been mistreated. And I decided I would not
Rosa Parks.
Le 1er décembre 1955, je suis comme tous les soirs montée dans un autobus pour rentrer chez moi. Je me suis assise sur l'un des premiers sièges de la partie non réservée. Quelques instants plus tard, un blanc s'est avancé vers moi, n'ayant pas trouvé de place à l'avant. Le chauffeur m'a alors crié de lui céder la mienne. Je suis restée assise. J'étais déterminée. Je n'en pouvais plus d'obtempérer. Quand j'ai vu la police arriver, je savais qu'ils allaient m'arrêter.
Certains pensent alors que Rosa Parks ne fait qu'obéir aux ordres de la NAACP. Association de défense des droits civiques, dont elle est secrétaire. Il n'en est rien. Elle ne supporte plus ces lois injustes et ce soir-là, elle trouve le courage de résister.
Je militais pour les droits civiques depuis des années. Au mois de mars précédent, une jeune fille de 15 ans, Claudette Colvin, avait été arrêtée pour les mêmes raisons. Refus de céder sa place à un blanc. Depuis, je réfléchissais aux moyens que nous avions pour obtenir justice et égalité. Mais ce soir-là, je n'ai pas réfléchi. C'est mon cœur qui m'a guidée.
Edgar Daniel Nixon, militant.
Dès qu'elle a appris l'arrestation de Rosa Parks, Joan Robinson, professeur à l'université, a lancé un appel à boycotter massivement les autobus le lundi suivant. J'ai trouvé cette idée formidable et me suis engagé à ses côtés. Le lendemain matin, j'ai averti Martin et je lui ai proposé de soutenir notre mouvement. Son ami Ralph Abernathy, pasteur lui aussi, m'avait déjà dit oui.
Edgar Nixon est président de la section locale de la NAACP. Je l'écoute avec attention et suis convaincu par ses arguments. Le soir même, avec une quarantaine de responsables religieux et associatifs, nous nous réunissons dans ma paroisse pour réfléchir à la meilleure façon de passer à l'action. Nous rédigeons ensemble un appel au boycott pour le lundi suivant, le 5 décembre. Plus de 7000 tracts sont imprimés, invitant les habitants de Montgomery à marcher, à prendre un taxi ou à partager une voiture. Nous ne pouvons plus endurer ce que nous avons trop longtemps accepté. J'ai vu des Noirs insultés par des chauffeurs sans raison. J'ai vu des Noirs se tenir debout à côté de places vides. J'ai vu des Noirs payer leur ticket mais rester sur le trottoir, le bus ayant démarré en trombe pendant qu'ils ressortaient pour monter à l'arrière.
Alors que l'appel venait d'être lancé, Martin a commencé à douter.
Ralph Abernathy, pasteur et compagnon de lutte.
Nous nous connaissions bien. Et je voyais dans ses yeux qu'il avait peur de se tromper. Peur d'entraîner ses prochains sur une mauvaise voie. Peur de ne pas se comporter en bon chrétien. Puis, il a relu Henri David Thoreau, la non-coopération massive. C'était exactement de cela qu'il s'agissait. Alors, comme nous tous, il a attendu le jour du boycott avec fébrilité.
Le lundi matin, Coretta et moi nous levons aux aurores. J'ai très peu dormi. Nous regardons par la fenêtre, pas encore d'autobus en vue. Je suis en train de préparer le café quand Coretta m'appelle. En voilà un qui arrive, presque vide. Ensemble, nous attendons le suivant. Personne ne monte dedans. Personne n'en descend. Il n'y a jamais eu tant de passants sur le trottoir. Les gens marchent ou font du stop. Certains ont même ressorti carrioles et chevaux. Les Noirs sont descendus dans la rue.
Stop that Alabama bus, I don't wanna ride. Stop that Alabama bus, I don't wanna ride. Stop that Alabama bus, I don't wanna ride. Lord, an Alabama boycott, I don't wanna ride. Stop that Alabama bus, I don't wanna ride. Stop that Alabama bus, I don't wanna ride.
Tandis que le vent de la révolte commençait à souffler à Montgomery, j'étais au tribunal pour mon procès. Condamné à payer une amende, j'ai fait appel immédiatement. J'étais condamnée, mais heureuse. Certaine que nous étions en train de vivre les prémices d'un changement profond.
Le soir même, un grand rassemblement a été organisé pour décider de la suite à donner au mouvement. Les différents responsables étaient divisés. Nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord, alors j'ai proposé de créer une nouvelle organisation, le MIA, Montgomery Improvement Association, Association pour l'amélioration de Montgomery. Nous avons ensuite cherché qui pourrait en prendre la tête.
Plusieurs suggestions étaient faites, mais nous trouvions toujours quelque chose à redire, jusqu'à ce que le nom de Martin soit lancé.
Martin était jeune, cela faisait peu de temps qu'il était installé à Montgomery. Il n'y avait pas encore d'ennemis. Il savait parler à tous, aux bourgeois comme aux plus modestes. Peut-être parviendrait-il même à convaincre une partie de la communauté blanche de la légitimité de notre combat.
Sans l'avoir souhaité, ni même imaginé, je me retrouve élu à l'unanimité. Me voilà président et porte-parole de la MIA. Porté par l'enthousiasme de l'Assemblée, j'accepte cette nouvelle responsabilité, sans immédiatement mesurer les conséquences de cet engagement.
Dès que Martin est rentré, j'ai compris qu'un événement important venait de se passer. Il avait l'air soucieux.
Coretta, épouse de Martin Luther King.
Quand il m'a raconté qu'il avait été choisi pour diriger une organisation destinée à être celle de l'unité, je l'ai tout de suite encouragé.
Je savais que Martin était un bon orateur. mais je ne l'avais jamais entendu s'exprimer avec une telle ferveur. En regardant les visages de ceux qui l'écoutaient, j'ai su que c'était gagné.
It has been moved and seconded that the resolution that read will be received and adopted. Are you ready for the question? All in favor, let it be known by standing on your feet.
Quelle suite allions-nous donner au mouvement? Nous avons décidé que, tant que des conducteurs noirs ne seraient pas embauchés sur les lignes les plus fréquentées par les noirs, tant que les chauffeurs blancs ne changeraient pas d'attitude envers nous, et tant que tous les passagers n'auraient pas le droit d'occuper la première place vide, nous continuerions à boycotter les autobus.
Quand la journée s'achève, je n'ai rien avalé depuis le matin. Je suis épuisé par le manque de sommeil. Pourtant, je ne me suis jamais senti aussi fort. Je ne sais pas si nous obtiendrons gain de cause, mais je sais que nous avons déjà remporté une immense victoire. Nous sommes enfin debout, ensemble. Et pourtant, tu as tiré. Tu m'as assassiné. Si tu avais été auprès de nous ce soir-là, tu aurais peut-être abandonné les armes. Abandonner la haine. Tu aurais peut-être compris que nous ne voulions rien de plus que la justice.
Les jours suivants, nous nous sommes organisés. Distribution de tracts, appel aux chauffeurs volontaires. Le mouvement continuait à prendre de l'ampleur. Nombreux étaient ceux qui proposaient leurs véhicules. Des pasteurs, des femmes au foyer, des étudiants.
That was the day that we started a bus protest which literally electrified the nation. And that was the day when we decided that we were not going to take segregated buses any longer.
Dans les rues, les passants étaient toujours très nombreux. Rien ne les arrêtait. Ni le froid, ni la pluie. Marcher, refuser d'être conduit, était pour beaucoup un symbole fort de notre lutte.
La plupart d'entre nous considèrent que le boycott est le meilleur moyen de nous faire entendre. Mais quelques voix s'élèvent pour réclamer des actions plus spectaculaires, plus violentes, jugeant qu'elles seraient plus efficaces. Je m'efforce de tenir le cap et commence à négocier avec les autorités municipales.
Tout était fait pour discréditer Martin. Les pires rumeurs étaient lancées. On racontait qu'il aimait les voitures de luxe et en avait récemment acheté deux. Le but des autorités était de nous diviser afin que le mouvement s'essouffle. Plus le temps passait, et plus le climat se durcissait. Chaque jour, de nouvelles arrestations avaient lieu. En refusant d'emprunter les bus de la ville, chacun savait ce qu'il risquait.
Un jour de janvier 1956, tandis que je rentre chez moi en voiture, je remarque que je suis suivi de près par des policiers. Je fais alors attention à ne commettre aucune faute, sachant qu'ils n'attendent qu'un faux pas pour m'interpeller. Mais mes efforts restent vains, puisque quelques minutes plus tard, je suis en état d'arrestation pour excès de vitesse. Accusé d'avoir roulé à 48 km/h au lieu des 40 réglementaires. Je sors de ma voiture et suis les policiers sans opposer de résistance. Ils me conduisent en prison. Je ne reconnais pas la route. Et si ce n'était pas une arrestation, mais une liquidation? Et s'ils se débarrassaient de moi sans laisser de traces? Quand j'aperçois la prison de Montgomery, je suis soulagé. Je vais pouvoir continuer à me battre encore un peu. Si je meurs aujourd'hui, c'est au-delà de la vie, ma capacité à me battre que tu m'auras ôtée. Mais d'autres continueront à ma place.
C'était la première fois que Martin allait en prison. Quand je l'ai appris, je me suis précipité sur place pour payer la caution. Mais on m'a demandé de revenir le lendemain matin avec des espèces. La nouvelle de l'arrestation de Martin s'était répandue. Les gens se rassemblaient spontanément devant la prison pour demander sa libération. Rapidement, la foule est devenue si dense que Martin a été libéré sans attendre.
Je suis libre. Mais l'étau se resserre de jour en jour. Je reçois de plus en plus de lettres de menaces, de coups de téléphone, m'avertissant que je mets mes proches en danger.
Mes parents, comme ceux de Martin, s'inquiétaient pour lui, pour nous. Mais il continuait à nous soutenir. Pour la première fois, Martin avait conscience qu'il pouvait perdre la vie à cause de ses engagements. Je ne sais pas s'il avait peur, mais il s'interrogeait.
The Knights of the Ku Klux Klan, bigotry in bed sheets, the ignorant, the unbalanced, the venal completely pervert the motto, make America safe for Americans. And to this they add another, the Pope will sit in the White House when hell freezes over. Spawned by the Civil War, the Klan comes to life again in the wake of another war. Its symbols, the cross and the flag. Its weapons, intimidation and terror. Intolerance and crime.
Le 30 janvier 1956, au soir, pendant notre rassemblement hebdomadaire, une bombe a explosé chez Martin. Sa femme et sa fille étaient dans la maison.
Je quitte l'église à l'instant où j'apprends qu'un attentat a été commis à mon domicile. Sur le chemin, mon cœur bat la chamade. Un attroupement s'est déjà formé devant la maison. J'entre. Coretta et Yoki sont là, bien vivantes. Personne n'a été blessé. Ma femme semble paisible. Cependant, il y a une énorme violence contenue au dehors. Je sens que ça peut exploser à chaque instant. Je demande à la foule de se calmer.
En quelques mots, Martin a apaisé ceux qui étaient prêts à prendre les armes. Deux jours plus tard, c'était chez Edgar Nixon qu'un bâton de dynamite était lancé, heureusement sans faire de victimes.
Comme l'avant-veille devant chez Martin, une foule nombreuse s'est réunie devant chez moi. Mais personne n'a perdu son sang-froid. Ils essayaient de nous déstabiliser, de nous effrayer, mais ils n'y parvenaient pas. Nous restions déterminés.
Les parents de Coretta insistent pour qu'elle vienne vivre quelque temps chez eux, avec le bébé. Mais elle refuse, affirmant que sa place est auprès de moi. C'est pour elle que je tremble. Ma plus grande crainte a toujours été que quelqu'un, un jour, s'en prenne à elle. Aujourd'hui, c'est sur moi que tu as tiré. Elle, elle continuera à vivre.
Après l'explosion, Martin a envisagé de porter en permanence une arme sur lui pour nous défendre. Puis il y a renoncé. Il ne pouvait pas prêcher la non-violence sans agir en conséquence. Nous avons décidé de nous débarrasser du seul revolver que nous possédions alors. Des vigiles non armés se sont installés devant chez nous et Martin a promis de ne jamais circuler seul. Nous n'avions pas peur.
Comme la violence ne parvenait pas à nous diviser, les autorités ont essayé autre chose. Au nom d'une ancienne loi, le boycott a été jugé illégal et des arrestations massives ont eu lieu.
Loin d'être intimidés, les Noirs sont fiers d'être inquiétés pour la cause qu'ils défendent. Certains vont même trouver le shérif pour s'assurer de leur inculpation.
Martin était bien sûr en première ligne. En février, il a été arrêté. Comme tout prévenu, il a été photographié de face et de profil. Un numéro accroché autour du cou. On a relevé ses empreintes. Un paroissien a payé sa caution pour qu'il reste libre jusqu'à son procès. Jugé coupable d'avoir violé la loi, il a été condamné à payer une amende de $500 ou à exécuter 386 jours de prison et il a fait appel immédiatement.
Je sors du tribunal la tête haute. Car je suis fier de ce que nous sommes en train d'accomplir. Les autorités pensaient avoir trouvé le moyen de mettre un coup d'arrêt au mouvement. Elles ne font que le renforcer.
Les mois passaient. Des milliers d'hommes et de femmes continuaient à marcher, malgré les menaces et la répression. Rien ne parvenait à les faire plier. Ils étaient épuisés, mais Martin, dans ses sermons, leur donnait de l'espoir et l'énergie de continuer. Sans relâche, il affirmait « Les gens ne peuvent pas être séparés et égaux. Ça n'existe pas.
Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis a jugé anticonstitutionnelle les lois sur la ségrégation dans les bus de l'Alabama. Nous avions gagné. Enfin. Dès le lendemain, deux rassemblements ont été organisés aux deux extrémités de la ville pour voter la fin du boycott. Près de 8000 personnes étaient là.
Nous décidons finalement d'attendre la mise en application de la loi pour cesser le mouvement. Les jours suivants, la tension est plus palpable que jamais. Le Ku Klux Klan se fait de plus en plus menaçant, défilant dans les rues de la ville. Mais la résistance continue. Et ceux qui d'ordinaire demeuraient enfermés jusqu'au matin quand l'organisation était de sortie, laissent la lumière allumée et restent sur le pas de leur porte, comme si de rien n'était. Chez nous, le téléphone sonne sans cesse, proférant les pires insultes à mon égard. Coretta, toujours à mes côtés, me sourit. Elle sait que nous ne sommes qu'au début d'un long chemin.
Le 20 décembre 1956, l'arrêté a été officiellement signifié aux autorités de Montgomery. Le lendemain, le boycott a été suspendu.
Martin a voulu que nous soyons parmi les premiers à remonter dans un autobus. Edgar Nixon, Martin et moi, nous sommes donnés rendez-vous. Devant les journalistes et leurs caméras, nous nous sommes rendus dans un quartier résidentiel blanc. Certains passagers nous adressaient un sourire ou nous serraient la main, tandis que d'autres refusaient de s'asseoir à nos côtés.
En cette fin d'année 1956, nous avons remporté une bataille. Nous avons montré au monde que nous étions unis. Nous sommes fiers de notre identité, fiers de nos combats, fiers d'être des résistants non violents. Une force nouvelle nous anime. Nous devons maintenant faire accepter aux Blancs de Montgomery, aux Blancs du pays tout entier, que nous avons les mêmes droits qu'eux et qu'ils ont le devoir de nous les accorder. C'est l'immense tâche qui nous attend. Mes paupières sont lourdes et toujours fermées. Dans ma tête, les images affluent. Les mots se mêlent. Je te raconte pour ne pas sombrer. Je te raconte la vie de celui que tu viens peut-être de tuer.
Once upon this planet Earth lived a man preaching love and freedom for his fellow man.
C'était Martin Luther King, Le silence s'est enfin déchiré, de Sophie Lamb. Deuxième épisode. Avec Hassan Timbo, Martin Luther King, Aissatou Thiam, Coretta, Marianne Mathéus, Rosa Parks, Aristide Legrand, Edgar Daniel Nixon, Modeste Nzapasara, Ralph Abernathy, Pascal Kamerbeck, la narratrice, conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière, prise de son et mixage, Claude Niort, assistance technique et montage, Emmanuel Armingue, assistante à la réalisation, Laurélène Planchet, réalisation, Michel Sidoroff.
From his foes he did not hide. It's hard to think this great man is dead. Oh yeah.